une histoire particulière. C'est l'été et je vous emmène en voyage. Pendant une heure, une histoire particulière va vous faire découvrir un lieu et son histoire. C'est la collection été 2019 d'une histoire particulière. C'est maintenant, sixième semaine, sixième étape. Oui, je sais, nous avions fait pas mal de kilomètres pour voir cette gare de Canfranc, mais reconnaissez qu'elle est vraiment incroyable. Nous allons repartir et remonter au nord de Paris. Il y fera plus frais, car nous serons en plein cœur de la forêt. Mais pour le moment, faites votre stock d'eau, il va faire chaud. Arrêt obligatoire à Bordeaux, pour les cannelés, et hop, nous passons par Poitiers, Angoulême, où nous faisons un stock de melons charentais. Là, je vous invite à faire une halte historique avant de reprendre la route pour notre destination. Arrêtons-nous à Maillé, l'autre Radour-sur-Glane français. Le village, situé à 40 km au sud de Tours, fut le théâtre d'un massacre le 25 août 1944, perpétré sur 124 des 500 habitants, à la suite d'une embuscade quelques jours avant et en représailles aux actions de la résistance locale contre l'occupant allemand, les troupes allemandes commirent ce massacre contre les civils de Maillé. Il n'en reste que peu de traces, contrairement à Radour-sur-Glane, car le village a été reconstruit à l'identique après la guerre, mais le lieu reste très émouvant. Nous reprenons ensuite notre route, tout en gardant à l'esprit l'époque trouble de la Seconde Guerre mondiale. Nous arrivons près de Chantilly, nous y voilà. On respire, Lénora Krief et François Tess nous y accueillent. L'histoire n'est pas facile, le lieu est étonnant, écoutons.
En 1935, sous le Troisième Reich, un projet secret est mis en place. Le but est de créer une race aryenne supérieure et pure à partir d'enfants blonds aux yeux bleus.
More than 20,000 babies were born in the Nazi birth houses. They were the product of a disturbing mission that had been started 10 years earlier, the Lebensborn.
Le manoir de Bois-Laris, une pouponnière nazie en France. Par Lénora Krief et François Test. L'un des architectes de la Tour Eiffel, Stéphane Sauvestre, s'est illustré à La Morlaix dans l'Oise en dessinant un manoir pour la famille Meunier, le célèbre chocolatier. Cet ancien château Meunier est aujourd'hui connu sous l'appellation du manoir de Bois-Laris. C'est dans cette bâtisse en pierre, bois et briques, isolée du reste du village, que les SS ont choisi d'installer le premier et unique Lebensborn français, un vieux mot allemand signifiant « fontaine de vie ». Des hospices qui accueillent des jeunes femmes enceintes de membres de la SS, très souvent des filles mères souhaitant accoucher dans l'anonymat. Dans l'Allemagne des années 1930, Hitler veut un peuple de surhommes. Un ordre de procréation est donné par Heinrich Himmler pour encourager ses hommes à procréer et donner ainsi des enfants à l'Allemagne. Dans la tête de cet homme va naître ce projet fou, créer des maternités où l'on fabrique des enfants de sang pur pour régénérer le peuple allemand. De cette pouponnière nazie, nichée à proximité de Chantilly, il ne reste que très peu de traces. Et rien dans les traits de cette maison ne laisse supposer ce sombre passage de son histoire.
Lucienne Jean, on vient de voir passer un cheval. La Morlaix est connue pour son centre hippique aussi.
Oui, c'est la première activité économique, enfin presque la seule activité économique vraiment d'importance avec les commerces. Ça représentait 2000 emplois il y a une dizaine d'années. On disait facilement 2000 emplois liés au monde des courses. Il y a une soixantaine d'écuries d'entraînement et qui sont réparties sur la partie est de la ville. Et qui donc justement ont accès à la forêt en passant tout près du manoir de Bois-Laris.
Du manoir de Bois-Laris où justement il y a une écurie. Hein.
Oui, mais ça c'est des écuries de bourgeois qui avaient des chevaux pour la chasse à cour ou pour le loisir. C'était pas des écuries d'entraînement.
Alors Lucienne Jean, nous sommes en pleine forêt de Chantilly et nous avons emprunté une route très arborée pour arriver devant le manoir de Bois-Laris. Ce manoir appartenait anciennement à la chocolaterie Meunier.
Il appartenait à un des Meuniers, je crois que c'est Henri Georges, qui l'a fait construire. Et oui, c'est la dynastie des Meuniers, chocolatiers.
Et c'est ici, au manoir de Bois-Laris, que les Allemands ont décidé d'implanter le premier Lebensborn français. Pourquoi ce choix, d'après vous ?
Le manoir était déjà occupé par la Wehrmacht. Il a d'abord été occupé par la Wehrmacht, et puis ensuite par les SS. Et c'est ensuite qu'ils ont décidé de l'installer là. Donc ils connaissaient ce manoir avant d'avoir l'idée de créer un Lebensborn. Alain Morlaix a été très occupé, enfin toute l'Oise d'abord a été extrêmement occupée par les Allemands. Il y a un taux d'occupation de l'armée allemande beaucoup plus fort qu'ailleurs, parce qu'effectivement c'est un nœud routier, ferroviaire, et que c'est relativement proche des frontières en fait, et à la fois de Paris et des frontières. Et donc à la Morlaix, il y avait énormément, la Wehrmacht faisait soigner ses chevaux.
On est à quelle distance du centre-ville?
Alors là, pour rejoindre le centre-ville, si on prenait le petit chemin des chevaux, ça serait, je dirais, un quart d'heure. Mais on est très près. On est très près du centre-ville. Oui. On est très près, mais très caché. Je ne sais pas comment c'était en 1940, parce que sur les cartes postales anciennes, la forêt est beaucoup moins importante. Mais enfin, c'est quand même très à l'écart. C'est facile à contrôler puisqu'il n'y a qu'un accès qui est cette route sur laquelle nous sommes là.
On va s'approcher du manoir.
Je m'appelle Fabrice Virgili, je suis directeur de recherche au CNRS. Et je travaille depuis maintenant un certain nombre d'années sur la manière dont les guerres troublent les relations entre les femmes et les hommes.
Alors pour commencer, est-ce qu'on peut définir ce qu'est le projet du Lebensborn ?
Les nazis ont une vision du monde qui est une vision du monde raciste, c'est-à-dire où le premier critère, c'est l'appartenance à ce qu'ils considèrent être une race. Et le monde est vécu comme un ensemble, les populations humaines, hiérarchisées en fonction de ces races. Et il se situe en haut de cette hiérarchie. Et donc le Lebensborn, c'est un des aspects de cette politique du nazisme qui vise à assurer, un, la suprématie raciale de ce qu'ils appellent la race aryenne. Nous savons depuis longtemps qu'on n'a aucune réalité scientifique ou autre, est un fantasme. Mais la suprématie de cette race et plus largement de l'ensemble de ce qu'on considère être les races germaniques sur le monde, donc de renforcer d'un côté la race aryenne et de l'autre de réduire en domination, voire d'éliminer les races qui sont considérées comme inférieures, les juifs étant tout en bas de cette vision du monde raciste des nazis.
Hitler a détourné la loi du plus fort édictée par Darwin pour justifier l'existence de cette race puissante.
Boris Thiollet, auteur de La fabrique des enfants parfaits.
Ces générations d'enfants vont incarner la race supérieure qui va gouverner le monde. Alors évidemment, ces enfants, on peut l'imaginer, ils doivent correspondre aux critères physiques idéaux selon les nazis, c'est-à-dire des enfants qui vont être plutôt grands et sportifs, entre guillemets, blonds, avec des yeux bleus, idéalement. Donc on va, pour cela, créer de toutes pièces une institution qui s'appelle le Lebensborn, qui était gérée comme une association aujourd'hui. C'est un statut associatif. Le président de l'association était donc Heinrich Himmler, en personne. Et donc cette institution consiste à créer des maternités qui disposaient véritablement du matériel le plus avancé de l'époque, de manière à ce que des femmes qui ont subi des examens raciaux puissent venir accoucher d'enfants, sachant qu'elles ont conçu ces enfants également avec des hommes qui correspondent aux critères raciaux nazis. Les pères idéaux, dans un premier temps, pouvaient être les gens qui appartenaient à la SS, parce que pour rentrer dans la SS, il fallait déjà satisfaire à des critères raciaux. Voilà l'idée de départ.
La mouvance politique nazie, elle semble vraiment comparer les humains à un cheptel animalier, où on doit éliminer les mauvais éléments, promouvoir les meilleurs, et améliorer la génétique du groupe.
C'est vrai qu'il y a eu, parmi les premiers travaux dans les années 60, 70 plutôt, pardon, autour du Lebensborn, un peu ce fantasme que ce serait des sortes de haras humains où des jeunes germaniques, femmes, seraient engrossées par l'élite national-socialiste que constitue la Waffen-SS. Là, on est plus sur le mythe que sur la réalité. Donc, en fait, le Lebensborn, c'est garantir aux nouveau-nés considérés comme racialement bons pour l'avenir d'un Reich qui se veut millénaire, ne l'oublions pas, le meilleur de la pédiatrie, de la puériculture, pour qu'ils soient finalement pris en charge dès le plus jeune âge, dans les meilleures conditions possibles de l'époque.
Alors là, on aperçoit donc l'arrière des écuries.
Donc il y avait la maison du garde, les communs et les écuries à l'époque du Lebensborn. Oui. Et le manoir, lui, se trouve de l'autre côté.
Oui, plus loin. Plus en hauteur, en fait. Je pense que d'un point de vue de l'architecte, il l'a mis au plus haut, parce que c'était certainement l'endroit le plus agréable. Donc voilà, c'est bien là.
Et c'est dans ce manoir, dans ce bâtiment, que vivaient les femmes et les enfants à l'époque du Lebensborn ?
Oui, absolument. C'est la vue, la carte postale qu'on a du manoir, et qui est resté vraiment le manoir en tant que bâtiment. Il n'a pas, de l'extérieur, il n'a pas bougé, et même de l'intérieur, malgré les aménagements nécessaires pour accueillir les enfants, on retrouve les lambris, les cheminées, le décor qu'on voit sur les cartes postales, il est encore là, quoi. On peut imaginer comment c'était du temps des meuniers, voire du temps du Lebensborn. Alors la propriété, je pense qu'elle s'arrêtait là, mais elle va très très loin vers le bas de la Morlaix. Ce que disent les gens, c'est que c'était fermé, surveillé par les SS, et qu'on repoussait les gens qui, par curiosité, ou avaient envie de s'approcher de ce lieu-là.
Un peu comme nous aujourd'hui.
Un peu comme nous aujourd'hui, exactement.
Il est arrivé plusieurs fois qu'on voit des tractions arriver, s'engouffrer dans la maison et refermer tout de suite. Mais dire ce qu'il y avait dans les tractions, il y avait des hommes devant et des femmes derrière, mais on n'avait pas le temps de voir.
C'était terriblement secret, parce que les filles qui s'y trouvaient étaient quand même des filles de Salbosch, c'était quand même des filles mères. Alors, dans le petit coin de la Morlaix, ça passait mal. Et ils étaient complètement coupés de l'extérieur.
On n'avait pas trop de soupçons. On n'imaginait pas des choses comme ça, que ça puisse exister.
Lucienne Jean, on se trouve devant une pancarte à l'entrée du manoir qui indique qu'aujourd'hui, c'est un centre de médecine physique et de réadaptation pour enfants, de la Croix-Rouge. Mmh. Et ils refusent l'accès au public.
C'est-à-dire que d'abord, ils veulent protéger les enfants et les malades qui viennent là. Et puis, d'autre part, je pense que la Croix-Rouge a une gestion bizarre, de mon point de vue, de cette histoire, d'histoire de ce lieu, dont elle n'est a priori absolument pas comptable. Mais elle ne veut pas qu'on en parle. Elle ne veut pas que le nom de la Croix-Rouge, le nom du centre de rééducation de Gualaris, soit associé au Lebensborn, à l'image du Lebensborn, plus qu'au souvenir, parce que le souvenir, on n'a pas beaucoup. Mais c'est vraiment très difficile d'obtenir une autorisation pour faire quelque chose comme un reportage qui soit radio ou télé. C'est très exceptionnel. Enfin, ça devient de plus en plus difficile, en réalité.
Je m'appelle Jeanne Martin et je suis née à Carcassonne le 11 octobre 1941 et j'ai été recrutée comme médecin par le docteur Salaire, qui était médecin-chef à l'époque, en septembre 1976, à Boilaris. Tout de suite, j'ai su ce qui s'était passé à Boilaris. Je suis incapable de vous dire qui me l'a dit, et puis on n'en parlait pas du tout.
Est-ce qu'il y avait quand même au sein du personnel des rumeurs, des bruits qui couraient ?
Pas du tout, on n'en parlait pas du tout.
Non.
Alors, la seule fois où il s'est passé quelque chose, je pense qu'on l'a raconté, c'est que donc, un médecin de Garches, le docteur, je sais plus, alors là, sur le coup, il ne revient pas. Pouliquen, le professeur Pouliquen, est venu visiter Bois-la-Rise, puisqu'on se mettait à travailler avec eux. Et monsieur Pouliquen était juif. Et il a fait un malaise, en disant qu'il sentait des trucs, et vraiment, et il est tombé dans les pommes, ça je peux vous le dire.
Vous étiez là?
Ah oui, j'étais là, oui, ça je l'ai vu tomber dans les pommes.
Mais à quel moment?
Au cours de la visite.
Parce qu'il avait su? Parce qu'on lui a appris?
Parce qu'il a, oui, parce qu'il le savait.
Mais il n'y avait aucune trace du Lebensborn dans le manoir?
Non, pour moi non, en tout cas je ne les ai pas vus.
Et...
Alors, il y avait le nom, il y avait ce très beau réfectoire qui est toujours aussi beau, les dortoirs. Non, moi j'ai. Vraiment, ça ne m'a pas.
Mais vous saviez ce que c'était là? Vous saviez ce que c'était l'institution du Lebensborn?
Oui, je le savais. Je savais que c'était une idée de faire, soi-disant, une race aryenne pure, etc.
Comment se fait-il que les SS décident de créer un Lebensborn en France en 1944 alors que la guerre avait déjà pris un mauvais cours côté allemand?
Bah effectivement, c'est surprenant parce que le Lebensborn de la Morlaix, donc la maternité SS de la Morlaix, qui s'appelait donc Westwald, ça signifie la forêt de l'Ouest, tout simplement parce que c'est dans la forêt de Chantilly, donc on est dans l'Europe occidentale. Elle a ouvert le 6 février 1944, donc très tard, et puis elle va évidemment fermer en urgence au début août 1944, parce que tout simplement les armées alliées foncent sur Paris et qu'il est vraiment temps pour les nazis de déguerpir. Elle a fonctionné 185 jours, donc c'est très peu. Mais justement, ça souligne, à mon avis, l'importance qu'avait ce projet pour les nazis. Parce que alors qu'effectivement, là, hormis les, j'ai envie de dire, les jusqu'au boutistes, les fous furieux, ils savent très bien que la guerre est perdue à terme. Mais on crée quand même une institution en France, alors que tout est perdu, effectivement. Et puis on la crée aussi dans un pays qui, au départ, dont les habitants ne correspondent pas aux idéaux raciaux nazis. Pour les Allemands, les Français, c'est un peuple abattardi. Voilà, ils exècrent évidemment les méridionaux, qui sont pour eux des métèques. Voilà, les Français, c'est vraiment un peuple, voilà, qui est une espèce de sous-race. La preuve, c'est qu'ils envoient des soldats noirs pour se battre. Ils sont tellement lâches qu'ils envoient des soldats noirs pour se battre à leur place. Donc, c'est vraiment une sous-race. Mais il y a quand même une part dans l'esprit des SS, une part de la population qui est racialement valable, c'était leur terme. C'est en gros la population qui est sur une espèce d'arc est-nord-est de la France, qui irait en gros de la Bourgogne, du Jura jusqu'au Pas-de-Calais, parce que bien sûr, il y a eu dans les siècles précédents des occupations franques, des occupations de populations germaniques, et donc dans l'esprit des nazis, ben, il y a des souches, si l'on peut dire, de sang germain qui seraient récupérables, et du coup, on va bien créer une maternité, une première. Peut-être que si le cours de la guerre était différent, il y en a peut-être eu plusieurs. En tout cas, il y en a eu une, voilà, à la Morlaix.
En fait, là, vous voyez, là où il y a le terrain de basket, là, il y avait un bassin. Enfin, quand on voit les cartes postales anciennes, je pourrais vous les montrer tout à l'heure. Et donc ici, c'était vraiment, c'est un très beau. Le parc était très très arboré, très voilà. Alors il y avait un bassin ici. De l'autre côté, il y avait là où on a construit le bâtiment de la Croix-Rouge. Il y avait un jardin japonais. Donc il y avait toute une ambiance autour de ce manoir. Donc très très construite, hein, et effectivement, il est planté au sommet de la petite coteau là qui domine la Morlaix, à la limite avec Chantilly, et en lisière de la forêt de Chantilly en fait.
Hein. Ce qui est très joli quand on arrive à Bois-la-Rise, c'est cette grande grille. Hein. On arrive par une grande grille qui est très importante, très très belle. On rentre dans une entrée qui est très belle aussi. Et après, sur la droite, il y a ce réfectoire qui était le réfectoire des enfants, qui est une très belle pièce. Il y avait une petite mezzanine pour les musiciens. C'est joli, c'était joli, hein. Il y avait des trucs. C'était très joli.
Boris Thiollet, que reste-t-il comme trace de ces maternités SS ?
Il devait y avoir une documentation absolument colossale, parce que les nazis notaient tout, 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 tout. Mais évidemment, comme pour les camps d'extermination, lors de leur défaite, les nazis, donc là en l'occurrence les SS, ont essayé de brûler les archives. Mais il en reste, donc il reste quelques cartons d'archives correspondant soit à l'institution globale du Lebensborn, soit à certaines maternités. Donc il y a quelques documents qui concernent la Morlaix, par exemple.
Vous avez notamment retrouvé un rapport d'inspection du docteur Grégor Hemner sur le Lebensborn de la Morlaix.
Oui. Oui, Grégor Hemner, c'est le médecin-chef du Lebensborn. D'ailleurs, c'était le médecin de famille d'Heinrich Himmler. Et donc, il est un peu la caution médicale, scientifique de ce projet complètement délirant. Il allait faire des visites d'inspection dans chacune des maternités qui étaient ouvertes pour vérifier que tout se passait comme prévu, parce que elles étaient toutes faites sur le même modèle, avec le même matériel qui était envoyé d'Allemagne, tout ce qu'on peut imaginer, les lits, les pouponnières, tout, les meubles, etc. Et puis, il venait vérifier aussi que ça se passait bien. Et donc, Grégor Hemner vient visiter la Morlaix le 6 avril 1944.
Le foyer fait dans l'ensemble bonne impression de par son architecture et sa décoration. Il est digne des autres structures existantes du Lebensborn. Les chambres non attribuées ont été correctement reconverties et servent de salle d'accouchement. Une activité impressionnante règne plus particulièrement dans les pièces du rez-de-chaussée, salle de visite, chambre des mères et réfectoire. Ces dernières, les chambres, manquent toutefois de couleurs et d'images accrochées au mur. Les meubles achetés par le sergent SS Grunwald sont de très mauvaise qualité. Les fauteuils club sont déchirés par endroits ou perdent leur étoffe. Sur les chaises de la salle à manger, j'ai relevé 10 éraflures et les assises sont déjà endommagées. Les tables à langer ne sont pas fabriquées avec le savoir-faire nécessaire. À la place d'un tiroir supérieur, il faudrait installer 2 armoires avec des portes pour y placer le matériel nécessaire aux soins des nourrissons. De même, il manque une rallonge sur le côté ainsi qu'une petite barrière pour empêcher les enfants de tomber. Les berceaux sont fabriqués dans un matériau très sommaire, ce qui les rend dangereux. Ils peuvent tomber à cause d'une simple secousse et entraîner les nourrissons dans leur chute.
En fait, il n'est pas très content. On comprend qu'il n'est pas très content parce qu'il sent bien qu'il y a quand même, il y a du laisser-aller d'après lui. Il trouve que le matériel n'est pas forcément bien installé. Il y a des problèmes avec, de mémoire, les tables allongées qui sont un peu vacillantes. Donc un nourrisson pourrait tomber. Si un nourrisson tombe, bah, évidemment que c'est dramatique pour un nourrisson classique. Mais alors là, un nourrisson du Lebensborn qui meurt, c'est un drame. C'est, voilà, parce que Himmler était totalement obsédé par ses enfants. Il prenait régulièrement des nouvelles de certains. On le tenait au courant des naissances, il envoyait des félicitations à la mère. Ceux qui étaient nés le 7 octobre, le jour de la naissance d'Heinrich Himmler, devenaient les filleuls d'Himmler. Enfin, il y avait une sorte de vision. Bah, en fait, c'était ses enfants à lui. Enfin, on peut pas dire ça, mais il y a une espèce de... Oui, il y a un côté Deus ex machina, quoi. Ce sont leurs enfants. Et donc, tout est important. Et donc, lors de la visite, Grégor Hemner sent qu'il y a quand même des choses, il y a un peu de laisser aller, ça va pas, du point de vue matériel. Donc il enjoint au responsable de la maternité de la Morlaix, qui lui est un médecin SS qui s'appelle Günther Fritze, et qui est en poste à Paris depuis 1942, de mémoire. Il lui enjoint de remettre un peu tout ça à l'endroit, parce qu'on n'est pas là pour rigoler, par définition, quoi.
Il manque plusieurs objets absolument nécessaires, comme par exemple un seau pour jeter les couches, des tables de nuit et d'autres choses de ce genre qui devront être achetées par le responsable de la SS en charge des questions sanitaires. Les 6 mères séjournant à Westwald font bonne impression sur le plan racial et semblent bien intégrées. Les quelques enfants présents sont en bonne santé. Seul l'un d'entre eux laisse apparaître une légère dégénérescence.
«
quand le hébergement était là, les gens ne savaient même pas ce que c'était qu'un hébergement. Eux-mêmes, d'ailleurs, les gens, enfin aujourd'hui, on commence à savoir, mais il y a quoi, il n'y a même pas 20 ans qu'on commence à savoir. Hein. Donc on a parlé de Lebensborn au moment du procès de Nuremberg, mais c'était tellement, ça paraissait tellement moins horrible, a priori, parce que philosophiquement c'est tout aussi horrible que l'extermination, la Shoah, etc., que c'est passé complètement dans l'ombre, finalement.
Et à la Morlaix, dans le cadre de votre enquête toujours, vous avez rencontré personne qui se souvient de cette nurserie au manoir de Polaris ?
Personne n'en a de souvenirs très très précis. Des gens disent qu'ils se souviennent, des gens disent « Ah oui, bien sûr, c'était cet endroit, on n'avait pas le droit d'y aller », ce qui est logique, hein, parce qu'évidemment c'était ces maternités, c'était comme des endroits pas top secret, mais quand même, on n'y rentrait pas comme dans un couvent, vraiment pas. C'était gardé par des, il y avait des gardesses autour, qui patrouillaient. N'y allaient que les personnes qui étaient destinées à y aller. C'était en gros les maires, les encadrants et puis d'éventuels visiteurs triés sur le volet. Donc, il y a quelques personnes qui disaient oui, il y avait des voitures qui s'arrêtaient. On voyait des femmes descendre avec des officiers SS. Il faut imaginer que les gens ont beaucoup reconstruit l'histoire. Je crois pas qu'il y ait, moi, j'ai pas trouvé de témoin qui ait pu me dire oui, je savais exactement ce qui s'y passait. Les gens ne l'imaginaient pas. Donc il y avait, à mon avis, des rumeurs qui circulaient sur ce lieu, parce que c'est un peu en hauteur, c'est isolé, c'est dans la forêt. Donc c'était propice un peu à tous les, comment dire, les fantasmes, etc. Et surtout, qui plus est, il y a eu longtemps une sorte de vision fantasmatique du Lebensborn, en Allemagne notamment. La rumeur disait que c'était en gros des maisons de passe, si l'on peut dire, améliorées, où les grands chefs SS allaient finalement prendre du bon temps avec des filles triées sur le volet. Donc à la Morlaix, je pense qu'il y avait des gens qui disaient « oui, il y a quelque chose là-bas, il y a des femmes et des hommes ». Mais je pense qu'à l'époque, les gens ne savaient pas ce qui s'y passait, réellement. Donc on n'a pas dû entretenir la chose. Qui plus est, après-guerre, personne, évidemment, ne serait vanté d'avoir travaillé là-bas pendant l'occupation. Et puis, par ailleurs, localement, on sent qu'il y a une petite réticence à évoquer le passé de cet endroit. Alors, peut-être d'une part, parce que les gens se disent « ouais, bof, avoir eu une espèce de maternité qui servait à un projet monstrueux, c'est pas forcément très reluisant, mais bon, c'est comme ça, c'est l'histoire ». Et puis, par ailleurs, c'est peut-être lié aussi aux fonctions actuel, c'est un centre de réhabilitation, donc encore une fois pour des enfants qui ont des problèmes, des handicaps lourds souvent, et associer ça avec ce projet totalement fou du visant à créer une race pure, peut-être que l'association se... Voilà, en tout cas, l'histoire du lieu n'a pas été préservée, très clairement.
Quand on a voulu travailler sur les Lebensborn, c'était grâce à notre présidente de... Non, elle n'était pas présidente à l'époque, mais elle est maintenant. Donc, Nicole Anconina, qui connaissait l'histoire du Lebensborn et qui nous avait dit que ça serait un sujet intéressant. On avait beaucoup travaillé aussi, puisqu'on avait fait une petite conférence sur l'eugénisme. Enfin, on avait fait une grosse manifestation qui avait attiré énormément de monde, mais qu'on a eu beaucoup de mal aussi à faire accepter par la municipalité de l'époque, qui avait peur qu'on mette le doigt sur quelque chose qui permettrait peut-être d'accuser des gens d'associer l'image de la Morlaix avec un projet nazi qui était quand même très lourd. Et donc la municipalité de l'époque a essayé de nous empêcher de faire cette manifestation. Mais enfin bon, ça s'est finalement passé. On a été le lieu d'une action des nazis dont il faut parler, parce que je pense que c'est un problème... qui peut toujours ressurgir. Enfin, aujourd'hui, avec les capacités de la science, ça serait sûrement d'ailleurs beaucoup plus terrible que ce qu'ont pu faire les nazis.
Jean-Pierre, on a sous les yeux une carte où vous avez retracé le chemin de votre petite enfance.
Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, on sait que je suis né à Argenteuil maintenant. Mais finalement, le point de départ de ma promenade pendant 2 ans, si on peut appeler ça une promenade, c'est la Morlaix. À la Morlaix, on m'y dépose en décembre 1943, 8 jours après ma naissance. En mai 1944, les Allemands décident de fermer ce Lebensborn. On sait ce qui arrive. Il y a le débarquement un mois suivant. Donc on part par convoi routier, par les petites routes. C'est ça qu'il faut bien expliquer. On met beaucoup de temps par les petites routes jusqu'à Wiesbaden.
Voilà. C'est le point B.
C'est le point B. Et de B, on va aller à C. Ça s'appelle Schalkhausen. C'est du côté de Nuremberg. Et après, on repart. Et on repart sur Munich. Alors Munich, c'est le fameux Lebensborn, l'origine des Lebensborn, construit en 1933.
Steinering.
C'est ici que les Allemands abandonnent les enfants. Puis après, tous ceux qui sont dits français, c'est-à-dire des Belges aussi. Eh bien, nous allons aller à Tübingen. Et puis, direction Nancy et Commercy. À partir de là, nous sommes placés dans des familles en vue d'être adoptés. Et c'est là où ma mère adoptive est venue me chercher.
Des bambins transvaïtés d'une maternité SS à l'autre à travers le Reich en décomposition, puis rapatriés en Bavière à Steinering. Jean-Pierre devait former avec des milliers d'autres en Europe la première génération de cette expérience inédite du Lebensborn, ce qu'on appelait les enfants d'Hitler. Environ 20 000 enfants ont vu le jour dans ces maternités SS, dont une vingtaine environ à La Morlaix, au manoir de Bois-Laris. Si les Allemands notaient tout scrupuleusement, ils se sont aussi appliqués à détruire toute trace possible de cette institution. À la fin de la guerre, ils ont voulu tout faire disparaître jusqu'à l'identité de ces jeunes. Alors, où sont-ils nés? Que savent-ils de leurs parents? Furent-ils abandonnés ou élevés par leur mère dans le silence? Certains sont aujourd'hui partis en quête de leurs origines.
Donc je m'appelle Boris Thiollet et je suis grand reporter, comme on dit, à l'Express. Et je travaille au service investigation. Il y a eu quand même très peu d'écrits sur le Lebensborn. Et les rares livres ou documentaires qui ont été faits s'intéressaient évidemment en priorité aux maîtres du Lebensborn, c'est-à-dire ses officiers SS, des généraux SS, etc. Et finalement, il y avait peu de choses sur les enfants. Et moi, je me suis dit que j'allais voir s'il y avait moyen de retrouver les enfants francophones. Donc, a priori, des enfants ou nés d'une mère française ou d'une mère belge francophone, sachant qu'il y avait effectivement eu une maternité en France, donc à La Morlaix, qui est une petite commune champêtre à côté de Chantilly, au nord de Paris. Statistiquement, c'était des gens donc, qui avaient un peu moins de 70 ans, ou autour de 70 ans, donc logiquement, ils pouvaient être en vie. Donc il restait à savoir s'il y avait moyen d'en retrouver. Voilà, c'était ça un peu l'idée de départ.
Parmi les enfants nés à La Morlaix, les noms que vous avez retrouvés, il y avait celui d'Erwin Grinsky.
Erwin Grinsky, c'est donc l'une des personnes nées à La Morlaix que j'ai retrouvée, identifiée. Et je lui ai appris qu'il était né, oui, dans une maternité SS. Il en avait conscience, il savait que son père était allemand. Et oui, je lui ai confirmé qu'il était bien né dans cet endroit qui, à l'époque, était bien à Lebensborn. Donc il avait une... Je pense qu'il n'avait pas pris la mesure de ce qu'était le Lebensborn, cette espèce de projet totalement fou, délirant.
Je m'appelle Erwin Grinsky et je suis né à La Morlaix dans l'Oise, et que je suis ici en Avignon depuis 1947. J'ai fait ma vie comme ça. Je me suis marié en 1967 et j'ai fait une partie de mon voyage de noces en Allemagne. Ma mère ne m'a jamais parlé de quoi que ce soit de la Morlaix, hormis que j'étais né dans un château du chocolat Meunier. Voilà, c'est tout. Mais elle m'a pas dit que c'était à La Morlaix ou ailleurs. Elle a gardé son secret jusque dans sa tombe. Elle est morte en 2007. Des Lebensborn, j'avais jamais entendu parler de ça et ma mère ne m'avait jamais dit là-dessus, quoi que ce soit.
Et elle ne vous parlait pas de votre père, alors vous ne posiez pas de questions sur votre père?
Ah ben, quand j'ai posé la question, elle me disait qu'une chose, tu as le même caractère que ton père. Voilà, c'est tout ce qu'elle me répondait.
Et vous, vous sentiez qu'un secret planait autour de vos origines?
La première fois que je me suis rendu compte que j'étais différent, blond aux yeux bleus, et c'est quand je me suis retrouvé chez mon oncle dans l'Ardèche, et que là, j'allais à l'école, et qu'on m'a traité de sale boche. Mais je savais même pas ce que ça voulait dire, à l'époque. Il a fallu que je tombe sur ce gars qui me traite de sale boche pour que je commence à ruminer.
Il y a eu deux événements importants aussi qui vous ont mis doute. Un jour, vous avez sorti votre acte de baptême et votre mère a réagi à ce moment-là.
C'est elle qui avait sorti mon acte de baptême. J'avais 16 ans à l'époque. Ma mère voulait me faire faire une carte d'identité. Sur l'acte de baptême, j'ai vu marqué Erwin Constant Jean Schmitt. Donc, il n'y avait rien à voir avec Gresky. Et là, ça m'a un peu turlupiné. Elle, devant moi, elle a déchiré cet acte de baptême, elle l'a mis au feu, et elle m'a dit, personne ne doit jamais savoir. Voilà tout ce qu'elle m'a répondu. Pour moi, c'est mon géniteur, ça n'a jamais été mon père. Et elle m'avait dit aussi que, de son côté, il était marié, et qu'il avait 4 enfants. Voilà, c'est tout ce que m'avait dit ma mère sur lui.
Il y a eu 23 enfants qui ont séjourné à la Morlaix et 21 femmes, 21 mères. Généralement, les femmes rentraient au Lebensborn 6 semaines avant l'accouchement et pouvaient séjourner 6 semaines après la naissance. Et là, il y avait deux solutions. Soit elle repartait avec l'enfant, parce que c'était un enfant qu'elle voulait garder. Par exemple, la femme était l'épouse d'un SS, d'un membre de la Gestapo, d'un officier supérieur. Elle rentrait chez elle, elle rentrait à la maison. Et il y avait l'autre possibilité, qui était particulièrement diabolique, si je puis dire, c'est que l'enfant pouvait être abandonné et confié à l'institution du Lebensborn.
Je me prénomme Jean-Pierre, j'habite dans la banlieue de La Rochelle, j'ai 75 ans. Carrière principale, j'ai été militaire dans l'armée de l'air.
À quel âge est-ce que vous avez découvert vos origines et votre lieu de naissance ?
J'ai toujours su que j'étais un enfant adopté. J'ai toujours su que j'étais un orphelin de guerre. Et je n'ai attendu que la retraite pour après faire des recherches. Donc ma mère adoptive était une infirmière et sage-femme de la Croix-Rouge qui, elle, pendant la guerre, était en Allemagne et donc m'a trouvé dans une pouponnière en Allemagne, en Forêt-Noire, à Tübingen. Et j'ai fait partie d'une famille ou d'une fratrie puisqu'elle a adopté 4 enfants, tous d'origine différente, et je suis le second. Je suis arrivé à un but de savoir effectivement que j'ai eu un père, de savoir son nom et d'où il venait, et d'avoir une mère naturelle. Tous deux sont décédés. Le décès le plus récent est celui de ma mère en 2000. Donc vous voyez, j'ai fait des recherches un peu tardives pour arriver à rencontrer quelqu'un.
Au moment où vous décidez d'entamer ces recherches, vous tombez sur votre dossier d'adoption, et qu'est-ce que vous découvrez à ce moment-là ?
Je suis allé aux archives départementales de la Meuse, qui sont à Bar-le-Duc. Et les archives départementales m'ont dit « Oui, monsieur, effectivement, nous avons un dossier portant votre nom, le nom avant mon adoption. » Donc c'était Pelu, mon nom de famille. Et on m'a ouvert le dossier et on m'a dit « Ben, on va ouvrir le dossier dans le sens inverse de la chronologie. Vous êtes déclaré né à Bar-le-Duc comme une trentaine d'enfants. » Et c'est là, à la fin, où le plus dur arrive, c'est quand on vous dit, en ce qui me concerne, ben vous venez d'un Lebensborn, le seul qui a existé en France, qui est à côté, dans la région parisienne, à côté de Chantilly.
On appartient à cet ordre de par le sang. Et symboliquement, il y a, qui plus est, un baptême SS. Donc voilà, il y a une cérémonie qui se déroule dans l'enceinte du Lebensborn. Il y a toute la petite communauté qui est rassemblée, donc les autres femmes en attente d'accouchement, les encadrants, éventuellement les autres enfants, s'ils sont encore là. Par définition, il n'y a pas toujours le père, puisque le père, parfois, évidemment, il a autre chose à faire. Le père, il fait la guerre, si je puis dire, ou il fait autre chose. Et donc, devant toute la communauté réunie, il y a le responsable, donc l'officier SS, qui prend le nouveau-né. Alors évidemment, il y a tout le décorum, hein. Il y a les drapeaux nazis, il y a l'étendard de la SS, il y a évidemment un portrait d'Hitler, etc. Et donc l'officier SS prend le nourrisson et lui met une dague SS sur le front, un peu comme on adouberait un chevalier, quoi, d'une certaine manière. Et puis on récite deux, trois petites choses. Et donc là, l'enfant est consacré comme étant membre de la SS, et on est membre de la SS pour toujours, quoi. On n'en sort pas, on n'en dit pas, on fait partie d'un ordre sacré, quoi. Enfin, alors sûr, quoi.
Un jour, donc, dès des Bundesarchives de Berlin, eh bien, j'ai reçu des documents et on m'a dit, mais votre nom, c'était pas Pelu, mais c'était Palu. Et là, j'ai trouvé qu'une dame Palu, eh bien, avait accouché d'un enfant qui s'appelait Jean-Pierre P, qui avait été abandonné au Lebensborn de la Morlaix. Tiens, j'ai dit, et puis né le 15 décembre 43. Je dis, bon, ben, apparemment, c'est moi. Donc voilà comment j'ai appris. Et puis après, j'ai appris qui elle était. Mais elle était donc une infirmière travaillant sur Paris qui avait rencontré un officier allemand de la gendarmerie qui s'appelait Dartsch. Et ils ont fait un enfant. Et c'est moi. Mais chacun de leur côté, pour mon père naturel, il était marié, il avait déjà trois enfants. Pour ma mère naturelle, on a découvert ça un peu plus tard, mais elle en avait eu un avant moi. Et à partir de là, bien naturellement, quand on trouve une famille, quoi, des noms de parents, bien on recherche les familles s'il y a des survivants. Donc j'ai découvert, côté français, un survivant, un petit-fils à elle, et côté de mon père, une sœur.
Est-ce que vous en savez plus sur votre père ? Est-ce que vous avez fait ces recherches-là, ou c'était trop douloureux pour vous de creuser davantage sur la carrière de votre père ?
Alors, moi, je suis en demande de résultats. À l'heure actuelle, sur mon père, je connais beaucoup de choses qui m'ont été dites donc par sa fille, sa vraie fille, puisque moi je suis le faux-fils, si on peut dire, ou le demi. Hein. Donc j'ai appris son histoire. Mais ce que l'on ne sait pas, et que la famille allemande ne sait pas, c'est sa carrière militaire pendant la guerre.
Et vous avez fait une carrière dans l'armée comme votre père ? Ça vous a pas troublé ?
Alors, c'est pas moi qui suis troublé, c'est tout le monde.
Mais vous avez aussi retrouvé la trace de votre mère, et elle a reconstruit sa vie ensuite.
Oui, elle a reconstruit sa vie en 1945. Donc, elle est rentrée d'Allemagne. Elle est allée, je pense, quelques mois en Allemagne. Et puis, comme elle n'a pas pu retrouver son ami, mon père, elle est rentrée en France, et en 1945, elle s'est mariée.
Oui, parce que vous vous êtes pas arrêté à ces découvertes, vous avez souhaité rencontrer votre famille.
Et naturellement, j'ai souhaité découvrir, et les deux familles, donc. Et en octobre dernier, nous sommes partis en Allemagne, et nous avons rencontré ma sœur et sa nièce à Dortmund. On a été très très bien accueillis, et ma sœur, en me voyant, a reconnu son père et son frère. Donc, pour eux, il n'y a plus de doute.
Pour vous, c'est important de créer ce lien avec eux ?
Mais pour moi, il est important de créer un lien. Parce qu'il démarre. On se connaît depuis 6 mois, à peu près maintenant. Et maintenant, je cherche à maintenir et améliorer cette relation familiale des deux côtés, du reste. Donc avant de partir là, après-demain, d'être à Dortmund, eh bien pendant, il y a 15 jours, nous étions dans le Calvados et du côté de Chartres pour voir mon neveu français. Donc un petit périple touristique sur la côte atlantique des plages du débarquement, et puis après, chez eux, pendant 2 jours aussi. Et ils sont aussi très demandeurs, donc ça se passe très très bien.
À la fin de la guerre, les Allemands ont cherché à protéger les enfants du Lebensborn et les ramener en Allemagne. Dans quel état ils ont trouvé ces enfants ?
Tout se termine à Steinering, la maternité qui est installée dans ce village de Bavière, à vingtaine de kilomètres de Munich. Et lorsque les Américains y arrivent, donc c'est de mémoire le 3 mai 1945, bah, ils tombent sur une espèce d'endroit, c'est une pétaudière, puis il y avait a priori 300 enfants. Des mères complètement désemparées, quelques infirmières, et puis donc Gregor Ebner, qui était le médecin-chef, qui lui assume, il est encore en uniforme. Évidemment, les Américains hésitent à le fusiller, puis finalement ils disent non. Bon, parce qu'ils vont comprendre, il va falloir que quelqu'un leur explique qu'en fait ils sont pas dans un orphelinat, ils sont pas dans une maternité classique, ils sont dans ce que certains soldats américains ont appelé une baby factory, donc une usine à bébés. Et ils tombent dans un endroit où il n'y a plus à manger, les mères deviennent dingues, les enfants sont dénutris. Ce qu'il faut peut-être souligner, c'est que dans la psychologie nazie SS, comme ces enfants sont de bonne qualité génétique, ils sont racialement valables, comme ils disent, il n'y a pas besoin de les éduquer, pas besoin d'en prendre soin. Il suffit de leur donner des bonnes choses à manger, ils vont se développer tout seuls. Donc ces enfants n'ont pas de lien. Les infirmières ne créent pas de lien affectif avec l'enfant. Donc ce sont des enfants qui n'ont pas l'habitude d'être pris dans les bras, d'être cajolés, d'être rassurés. Et donc ils fonctionnent comme un troupeau de petits animaux apeurés, qui se cachent dès qu'il y a le moindre bruit. Si l'un pleure, tout le monde pleure. Si l'un a faim, tout le monde a faim. Si l'un va à gauche, ils vont tout à gauche, à droite. Donc c'est une espèce de troupeau quasiment animal. Enfin, c'est horrible à imaginer. Donc les Américains tombent sur des enfants hagards. Bien évidemment, c'est malheureusement le pied de nez de l'histoire. C'est que les enfants qui étaient dévolus à devenir la race supérieure, l'élite du monde, sont évidemment des enfants qui sont pleins de carences, bien évidemment, et physiques. Certains ont 4 ans, ils ne parlent pas, ils parlent à peine, ils bredouillent. Puis des carences affectives énormes. Quand on récupère ces enfants, ils sont mal en point.
Par l'intermédiaire de la journaliste avec qui je suis en rapport toujours, Anna Andlauer, elle m'a envoyé un compte-rendu qu'elle a retrouvé, écrit par Greta Fischer, responsable de l'UNRWA. Alors l'UNRWA, c'était un peu l'équivalent de la Croix-Rouge, créée par les États à la fin de la guerre. Ça, du reste, était dissous dans les années 50. Et cette responsable s'occupait en particulier des petits bébés. Et elle écrit dans son rapport, elle écrit sur moi. Jean-Pierre fut âgé de 20 mois. Il avait un tel manque de réponse que nous avions peur qu'il soit mentalement défectueux, possiblement autiste. Après des tests qui avaient éliminé la possibilité d'une infection, il continua néanmoins à perdre du poids, à rejeter la nourriture. Il sembla juste dépérir. Après les soins spéciaux continus, il devint soudain plus alerte. Ses yeux commencèrent à focaliser avec intérêt sur les personnes autour de lui et sur les jouets qu'on avait pendus sur son berceau. À partir de ce moment-là, son développement fut étonnamment rapide. En moyenne, ça prenait autour d'un an avant que les enfants récupéraient ce qu'ils avaient perdu par le manque des soins et la famine physique et émotionnelle dont ils avaient souffert avant de venir au centre d'accueil pour enfants. En ce qui me concerne, voilà dans quel état j'étais à 20 mois, vous pouvez constater qu'à 75 ans, j'ai pas dépéri depuis. Mais que j'ai eu de la chance. Parce que cette chance-là, les nazis ne la laissaient pas aux enfants. faut pas oublier ça.
Parce que tout enfant
handicapé, ils ont pratiqué ça déjà sur les enfants avec des handicaps de familles allemandes, qu'ils ont euthanasiés volontairement.
Qu'ils ont mis dans un centre, soi-disant.
Ils allaient les mettre dans des sanatoriums, et puis là, on les piquait. Et puis après, on envoyait un mot à la famille comme quoi l'enfant. Or, c'était des petits, des ados aussi, n'importe, puis c'était des handicapés, eh bien, étaient morts d'une bronchite ou quelque chose comme ça. Et des familles n'ont jamais cru à ça. Nous sommes rentrés en France, nous les petits, je dis petits parce que les ados ne sont pas tous rentrés comme ça. Et la plupart des ados, dans les lieux où je suis passé, c'était des ados qui sortaient des camps, il ne faut pas oublier ça, qui sortaient de Dachau, Treblinka, je ne passe pas qu'il y en ait eu, mais de Auschwitz il y en avait. Hein. Et ce sont ces ados-là qui se sont occupés de nous à partir de fin 44, parce que les Allemands qui géraient les Lebensborn se sont enfuis avec les infirmières et ne sont, par exemple, à Steinering à Munich, quand l'UNRWA est arrivé, il restait trois mamans et que des ados. On pensait que ces ados, ils étaient bien gentils tous, mais ils avaient d'autres problèmes que s'occuper de bébés. Alors, si on est là-bas, on n'était pas 20 ou 15 comme à la Morlaix, on était 80 ou 100. C'est là où certains problèmes sur les enfants ont été vus, dont sur moi. Les premiers rappels que j'ai eus, c'est quand la fin du règne de Ceausescu. Et on a vu à la télévision les pouponnières de Ceausescu. Si vous n'avez pas vu ça, regardez-le à nouveau. Et vous verrez tous ces enfants accrochés aux barreaux de leur lit en train de se balancer. Et ce balancement est dû, c'est ce qu'on m'a expliqué, on fait du bruit en se balançant, et faisant du bruit, on s'isole. Et quand on est fatigué, on s'endort. Sinon, on ne s'endort pas. Dans ce reportage, on voit les enfants, soit ils sont debout dans les lits, en train de se secouer, accrochés au barreau, soit ils sont couchés et ils balancent la tête à droite et à gauche, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est ce que je faisais. Voilà. Alors ça, c'est... Ma mère a toujours su ça. Mon épouse l'a constaté. Donc ça a réveillé mon épouse. Moi, non. Autrement, c'est les hurlements pour le... Plus maintenant, ça, puisque j'étais à l'armée, j'ai tiré au fusil, naturellement. C'était les bruits, les pétards. Enfant, je ne supportais pas. Donc, dans l'hôpital de Marseille où on habitait, eh bien, je ne sortais pas des murs du jardin. Jamais de l'autre côté, toujours dans le jardin. Autrement, je longeais les murs. Donc, on ne pouvait pas me perdre.
Boris Thioly, au cours de votre enquête, vous avez rencontré différents enfants nés d'un père SS. Est-ce que vous avez constaté des similitudes dans leur ressenti, un sentiment qui vous a paru commun à tous ?
Il y a peut-être un trait commun, c'est toujours l'ambivalence qu'il y a par rapport à la quête de leurs origines, parce que, bien évidemment, ceux qui ont entamé des recherches, il y en a qui ne veulent pas savoir, qui n'ont pas cherché à savoir qui étaient leurs parents. Mais ceux qui ont entamé cette recherche, ils sont toujours un peu déchirés entre l'envie de savoir, bien évidemment, de connaître l'identité de la maman et l'identité du papa, avec la crainte de découvrir que papa était un SS potentiel, un criminel de guerre, quelqu'un qui a trempé dans des horreurs. Donc il y a toujours cette chose savoir, mais en espérant qu'on va pas tomber sur le, passez-moi l'expression, sur le pire des salauds, quoi. Et donc oui, il y a toujours une crainte, il y avait souvent une crainte. Et puis après, il y a ce que je disais aussi, cette chose très difficile d'avoir conscience qu'on a été créé pour servir un projet monstrueux. C'est effectivement, alors que ces enfants sont bien évidemment des victimes, ce sont vraiment des victimes. En fait, c'est une catégorie très particulière, ce sont des victimes vivantes du nazisme.
Nuremberg est aujourd'hui une ville ruinée. Nuremberg était l'orgueil du Troisième Reich. Dans son stade immense, Hitler croyait faire trembler le monde. Mais Nuremberg est aujourd'hui la ville des juges. Dans ce bâtiment resté debout, s'est ouvert le procès géant des plus grands criminels de guerre, de ceux qui ont préparé le massacre, voulu la mort, donné les ordres. La France siège à ce tribunal où les nations libérées jugeront les responsables de 5 années de crimes.
Lors des grands procès réservés contre les grands criminels nazis en 1946, on ne juge pas les responsables des Lebensborn pour crimes de guerre, Boris Sioler.
C'est-à-dire qu'on les juge, il y a 4 responsables du Lebensborn qui vont être jugés effectivement à Nuremberg lors d'un grand procès où comparaissent tous les gens qui, dans l'appareil d'État nazi, s'occupaient des questions raciales. Donc le Lebensborn, évidemment, en fait partie. Donc il y a 4 responsables. Et en gros, ils comparaissent, mais ils vont réussir à convaincre les jurés que le Lebensborn n'est pas une organisation criminelle, mais que c'est une association caritative. Ce qui, d'une certaine manière, est vrai, puisqu'ils disent qu'il permettait, par exemple, à des filles mères ou à des femmes esselées d'accoucher dans les meilleures conditions sanitaires, médicales, et ainsi de suite. Les Lebensborn, les fontaines de vie, eh bien, ces officiers SS vont réussir à faire croire qu'ils sont une association caritative, donc finalement quelque chose de positif. Et ça passe. Ils ont déjà fait de la prison préventive. Ils ont purgé leur peine. On les relâche, ils repartent, ils rentrent chez eux. Voilà, tout simplement. Ils sont pas condamnés pour avoir dirigé, créé le Lebensborn.
C'était Les enfants du Lebensborn au manoir de Bois-Larisse. Avec Lucienne Jean, président de l'association historique de La Morlaix, ALMA, Boris Sioler, journaliste et auteur d'une enquête sur ces Français nés dans une maternité SS, la fabrique des enfants parfaits, Fabrice Virgili, chercheur au CNRS, Erwin Grinsky et Jean-Pierre Roulet qui ont séjourné à La Morlaix, et Jeanne Martin. Extrait sonore du documentaire France, la nurserie oubliée du Troisième Reich, de Françoise-Renée Jamet et Laurent Marocco. Texte lu par Thierry Beauchamp. Coordination Christine Bernard. Un documentaire de Lénora Krief et François Test.
Particulière, c'est fini. Dimanche prochain, à 16h, ce sera la suite de notre voyage vers un autre lieu, une autre histoire.